faire ici à la vie comblée. Je vous invite à prendre vos Bibles entre vos mains. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous allez voir. Est-ce que tout le monde a reçu une feuille avec les versets? Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas les notes? Levez la main, on va vous donner ça tout de suite. Alléluia. Merci Seigneur. Ici, on aime faire cette déclaration. Pourquoi? Parce que la Bible dit que qu'est-ce qu'on croit de notre cœur et qu'est-ce qu'on dit de notre bouche s'accomplit. Hein? Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu confesses avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur, tu seras sauvé. Mais c'est un principe qui s'applique à n'importe quel domaine de la vie chrétienne. Ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on dit s'accomplit. Et ici, on a entre nos mains un livre qui n'est pas un livre normal, c'est la Bible inspirée de Dieu. Et ces paroles sont oint de Dieu. Et le Seigneur m'a oint aussi pour prêcher ces paroles. Donc ce matin, on va recevoir la parole vivante de Dieu. Donc voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai à toujours et à jamais et pour éternité changé. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5. On va continuer juste quelques minutes ce matin sur un sujet tellement important qui va de pair avec ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient de dire ce matin. Parce que savez-vous, ça c'est vraiment quelque chose de clé. C'est que l'Évangile, c'est pas une chose qu'on dit seulement, c'est une chose qu'on fait. L'Évangile doit être entendu par notre monde et l'Évangile doit être vu par notre monde aussi. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus est venu pour délivrer les captifs. Il est venu pour donner la liberté aux prisonniers. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour sauver les perdus. Amen. Et ici, on voit en 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tout le monde dit la parole de la réconciliation. Savez-vous quoi? La bonne nouvelle que nous avons besoin d'annoncer au monde entier, c'est que les péchés de tout le monde sont déjà pardonnés. Amen. Jésus a déjà payé le prix. Son sang a déjà été versé. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il veut que chaque homme, chaque femme, chaque enfant vienne au ciel avec lui et il veut que tout le monde soit là pour l'éternité. La mauvaise nouvelle, c'est que, à cause du péché, tout le monde est séparé d'avec Dieu. On est né dans le péché, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est des choses de base qu'on connaît tous depuis des années. Mais savez-vous, la bonne nouvelle, c'est que nous qui étions séparés, morts dans nos offenses et nos péchés, nous avons été réconciliés avec Dieu par le sang et par la croix de Jésus-Christ. Nous sommes tous pardonnés déjà. Vous savez que chaque pécheur dans cette ville est déjà pardonné, mais il est quand même destiné à l'enfer à moins qu'il accepte et qu'il reçoive par la foi le don gratuit de la vie éternelle. Donc, c'est quoi le message, la parole de la réconciliation? On a besoin de dire à tout le monde, vous êtes pardonnés, Dieu vous aime, mais vous avez tout simplement besoin de vous humilier devant Dieu et d'accepter son don gratuit en Jésus-Christ. Confessez avec votre bouche que Jésus est votre Seigneur. Croyez dans votre cœur qu'il est ressuscité et vous serez sauvés. Et on voit ici dans ce verset que Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Ce n'est pas les anges des cieux qui vont se promener prêcher, c'est nous qui allons prêcher. Amen. Ce n'est pas juste les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs de la parole de Dieu qui vont prêcher, mais c'est nous qui allons prêcher la bonne nouvelle. Ça se peut que vous n'allez jamais prendre la place en arrière dans le train pour prêcher publiquement, mais nous avons tous quelque chose à partager. Nous avons une vie à partager, un témoignage à partager. Nous avons besoin de partager cela avec le monde, parce que si on ne partage pas, personne d'autre le fera. Amen. Verset 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Soulignez cette phrase comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, je veux souligner une chose dans ce verset. C'est que le monde a besoin de réaliser que quand nous, les chrétiens, nous parlons de Jésus, ce n'est pas juste un homme et une femme qui parlent, mais c'est Dieu qui parle à travers nous. Mais vous savez quoi? Nous, les chrétiens, nous avons besoin d'avoir la même conviction. Que quand on ouvre notre bouche pour parler de Jésus, ce n'est pas juste nous qui parlons, mais dans le fond, nous sommes le porte-parole de Dieu. Et c'est comme Dieu lui-même exhorté, supplié par nous, soyez réconciliés avec Dieu. J'ai entendu ça et j'ai compris cela il y a quelques années, peut-être 16 ans de ça. On était, Tanya et moi, dans une ville où on prêchait dans une église. On faisait comme une semaine, on était là pour plusieurs semaines pour prêcher dans cette église. Et on allait souvent sur le campus d'une université aux États-Unis. Et on faisait du ministère pour les jeunes qui étaient là. Et on témoignait, puis on donnait la bonne nouvelle. Et il y avait beaucoup des étudiants qui sont venus au Seigneur. Mais un jour, j'étais en train de jaser avec un jeune homme. Et il a dit, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, cette affaire de Jésus, cette histoire de Jésus. Et c'est comme il rejetait carrément le message et le messager. Mais là, j'avais vraiment la conviction dans mon cœur, je lui posais la question, je dis, mais laisse-moi te poser une question, est-ce que tu crois que Dieu existe? Ah oui, oui, je crois que Dieu existe. Est-ce que tu crois que Jésus existe? Ben, bien sûr, je crois qu'il existe, mais je veux rien entendre de ça. Il dit, mais écoute, si tu crois qu'il existe, tu crois que Jésus existe, tu crois qu'il est le Fils de Dieu, ben oui, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je lui ai posé la question, mais si Jésus se manifesterait là, dans la chair, devant toi, et il te dirait, je regardais le gars droit dans les yeux et dit, tu sais, je pense qu'on va dire que son nom était Jean. Jean, je t'aime. Tu sais, Jean, que je suis venu pour toi. Je suis venu sur la terre parce que je t'aime. J'ai versé mon sang. J'ai souffert cruellement sur la croix pour te sauver. Je t'aime. J'ai tout donné pour toi. Est-ce que tu veux m'accepter aujourd'hui comme sauveur et Seigneur? J'ai demandé à Jean. Jean, si Jésus était là dans la chair, et il te regardait droit dans les yeux et il te posait la question. Jean, veux-tu ouvrir ton cœur à moi? Qu'est-ce que tu ferais? Ben, si Jésus était là, c'est sûr que si c'était Jésus, je dirais pas non. Donc je dis, mais écoute, c'est quoi? Ben, prends ça comme faux. Moi, je suis chrétien. Je crois en Jésus. J'ai accepté Jésus. Et si je l'ai accepté, il est en moi. Amen? Donc, littéralement, Jésus est là devant toi, il te parle. Amen? C'est quoi? Quelque chose s'est passé dans son cœur, il a fondu. Et il a accepté le Seigneur. Pourquoi? On est ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est quoi? Un ministre du rang le plus élevé, employé par un prince ou un état à la cour d'un autre prince, pour effectuer les affaires de l'État. Nous sommes ici comme représentants du ciel pour effectuer les affaires du ciel sur la terre. Et quand on parle de Jésus et pour Jésus, c'est comme si Jésus lui-même parlait à travers nous. Et il faut qu'on comprenne cela, parce que ce n'est pas juste une question de « Ah oui, j'ai un devoir. » On a dit l'autre jour « Je me dois, j'ai le vif désir. » Et je n'ai pas honte de l'Évangile. Mais ce n'est pas juste une question de savoir « il faut que je parle de Jésus. » Oh, j'ai pas honte de Jésus. Mais il y a une puissance qui doit accompagner nos paroles. Amen. On n'est pas supposé juste de parler, mais de démontrer l'Évangile. Amen. Paul l'a dit. Je ne suis pas venu aux Corinthiens avec des paroles persuasives des hommes, mais avec une puissance et une démonstration de l'Esprit, afin que votre foi soit fondée pas sur les hommes ou la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc, quand on parle, qu'est-ce que Dieu veut faire? On parlait tantôt que Dieu veut susciter une armée des francophones pour aller partout dans la francophonie. Et ça, c'est notre cœur, notre passion. Pas juste pour notre église, mais il y a d'autres églises aussi. Hein? On n'est pas seul dans cette affaire. On est dans une grande famille. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre église locale, la vie comblée et ailleurs? Il veut qu'on soit rempli de lui, qu'on soit conscient que quand on parle, c'est Dieu qui parle à travers nous. Et quand on dit la parole de Dieu, il est toujours là pour confirmer sa parole avec puissance. Amen. Regardons, on va lire plusieurs versets de la parole ce matin. Alléluia. Je te promets que tu seras parti avant midi. 11h59 et 30 secondes. Alléluia. Savez-vous, des fois, on est trop pressé. Si vous êtes ici pour la première fois, comprenez, hein? On a eu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de choses, des préliminaires aujourd'hui, mais c'est important la parole de Dieu, amen? C'est plus important que notre rôti, hein? C'est plus important que le restaurant qui nous attend. Est-ce que vous êtes d'accord? Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, juste lisez dans vos notes avec moi. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On a vu ça ce matin, n'est-ce pas? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le Seigneur travaille avec nous. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, tu vois, c'est pas une image d'une église faible, des personnes qui vont juste aller se promener, raconter une vieille histoire de Jésus. Avez-vous entendu parler, il y avait une fois, et on raconte l'histoire de Jésus comme les contes qu'on raconte aux enfants. C'est pas ça, ici tout le monde parle de mon petit bon Dieu et puis mon petit Jésus et tout le monde. Ils comprennent pas qu'on parle d'un Dieu vivant et Jésus qui est vivant et Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc on voit que le plan de Dieu, c'est pas pour les apôtres seulement. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ce matin? Donc vous êtes supposés de chasser des démons. Vous êtes supposés de parler en langue. Vous êtes supposés d'être capable, si par hasard vous boirez quelque chose de mortel, ça ne vous ferait pas mal. Vous êtes capable d'imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. C'est ça que Jésus faisait, n'est-ce pas? Acte 18. Lisons ces choses dans les notes ce matin. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Coupe toute chose à souligner là. De un, Jésus, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est le Fils de Dieu? Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il est le Fils de l'homme aussi? Selon la Bible, il est 100% Dieu et 100% homme. Quand il est devenu chair, quand il est né sur la terre, il a laissé à côté sa gloire et ses pouvoirs divins. Il était toujours fils de Dieu. Mais si tu lis, dans Philippiens, il a dit, il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est privé. Il s'est dépourvu. La Bible dit qu'il est devenu homme. Il était limité comme homme ici sur la terre. Et Jésus n'a pas fait un seul miracle pendant 30 ans de sa vie. Je sais qu'il y a des traditions qui disent que Jésus, en tant que petit garçon, il ressuscitait des oiseaux d'entre les morts, mais ça, c'est pas biblique. On voit pas ça dans la Bible, nulle part. Lisez la Bible de Genèse à Apocalypse, vous verrez jamais ça. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que Jésus, il avait un cœur pour Dieu, il s'est soumis à ses parents, même à l'âge de 12 ans, il avait une sagesse incroyable et surnaturelle. Il s'est rendu compte de sa mission dans la vie. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais ce n'était pas avant d'être baptisé dans la rivière Jourdain par son cousin Jean le Baptiste qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Amen. Il a reçu cette onction. On sait comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Et c'est à partir de ce moment-là, revêtu. La Bible dit qu'il est allé dans le désert 40 jours pour être tenté. Et après ça, revêtu de la puissance, il commençait à faire des miracles. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous sommes revêtus de la même puissance. On peut être revêtus de la même puissance. Vois-tu, Jésus, tous les miracles qu'il a fait en tant qu'un homme, au nom du Saint-Esprit. Il n'a pas exercé son ministère surnaturel en tant que Dieu qui marchait sur terre seulement. Il marchait sur terre comme fils de l'homme, au sein du Saint-Esprit, et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et c'est pourquoi Jésus a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, en vérité, il a dû le dire deux fois parce qu'on est lent des fois. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a guéri les malades, les aveugles ont vu, les sourds, les muets, les boiteux, les paralytiques ont été guéris. Amen. Et Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous ferez aussi. Qui va faire ces œuvres? Ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Et il en fera de plus grandes. Quelqu'un a dit, c'est pas forcément plus grande en qualité, mais en quantité. Parce que Jésus était un seul homme au sein du Saint-Esprit, et le diable pensait avoir gagné quand il a cloué à la croix, mais qu'est-ce qu'il savait pas? C'est qu'en ressuscitant, il allait répandre le même Esprit Saint sur toute l'Église. Amen? Wouh! Il pensait avoir un problème avec Jésus. Mais là, il a un problème avec le corps de Jésus, son Église. On est partout. Alléluia. Regardons bien. C'est la parole de Dieu qui dit ces choses, pas moi. Actes chapitre 8, verset 1, dans vos notes. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, soulignez cette phrase, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est pas juste les apôtres, c'est pas juste les pasteurs, c'est pas juste les évangélistes, c'est pas juste les docteurs de la loi qui sont supposés de faire ces œuvres. Ici, on voit que l'Église était supposée d'aller à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils étaient tous quand même encore à Jérusalem. Il y a même des érudits qui pensent que si l'Église aurait pris l'initiative d'aller plus vite dans les autres contrées pour prêcher l'Évangile, que ça se peut que la persécution n'aurait pas eu lieu. On ne sait pas. Mais est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Mais Dieu a permis ça. Mais voici pourquoi. Regarde bien. Ici, on voit bien intéressant. Verset 4 de chapitre 8 de Actes. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ça vous fait penser à quelque chose? Acte 18, on sait comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Là, on voit tous qui ont été dispersés, c'est-à-dire tous les croyants, sauf les apôtres, allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, qui était autrefois diacre à l'Église, qui était juste un simple serviteur qui aidait dans le ministère d'aide, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent. Tu peux souligner ces deux mots, apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques et en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui s'est passé là? Tout le monde, sauf les apôtres, ont été dispersés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de lieu en lieu, faisant exactement qu'est-ce que Jésus faisait. Ils prêchaient et guérissaient. Quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans chaque ville et dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, enseignant dans les synagogues et guérissant tous ceux qui étaient malades. Et là, on voit que nous sommes ici pour faire la même chose ici sur la terre. Amen. Luc 24, 46 dit, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Donc, on voit notre raison d'être en tant qu'Église sur la terre, parce que je suis convaincu que la vie au ciel est beaucoup mieux, plus agréable qu'ici sur la terre. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient d'accord avec ça? Pas d'hydro à payer, pas de char à réparer. Moi, je pense que probablement pas une pelouse à gazon à tondre. Si on a des animaux, j'imagine qu'ils vont être propres, hein? Pourquoi est-ce qu'on est encore là? Si le ciel est tellement bien, est tellement beau, et si merveilleux, pourquoi est-ce qu'on est encore là? Pourquoi pas? Dieu aurait pu dire que, bon, dès que quelqu'un confesse le Seigneur Jésus, il croit dans son cœur que, pff, on est enlevé tout de suite et on y va au ciel. Non, c'est parce qu'on a besoin d'être ici pour témoigner, pour être les ambassadeurs pour Christ. Notre cité à nous, ce n'est pas ici. Ma vraie demeure n'est pas ici sur terre, c'est au ciel. Mais je suis ici pour faire la volonté de mon Père. Mais pour faire cette volonté, et c'est quoi sa volonté? Aller dans tout le monde et prêcher l'Évangile à chaque créature. Aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est qui a dit ça? Jésus. Allez faire de toutes les nations les disciples. Prêchez l'Évangile à chaque créature. Ce n'est pas la grande suggestion. C'est le grand mandat de l'Église. Jésus n'a pas dit, si vous n'êtes pas trop occupé, vous n'avez pas autre chose à faire, et s'il n'y a pas un bon match à la télévision, à soir, donc occupez-vous, t'es perdu. Non, il a dit, allez, prêchez, annoncez. Je ne parle pas aujourd'hui d'aller cogner les portes, d'aller faire comme quelques autres font. Je ne parle pas d'un système religieux d'évangéliser, mais je parle de tout simplement partager la vie de Dieu que nous avons reçue avec un monde qui est en désordre et un monde qui est dans le besoin. Amen? Donc, n'ayez pas l'idée que, bon, on va juste organiser des équipes, on va aller deux par deux, qu'on y les porte. Si quelqu'un, laisse-moi vous dire, si le Saint-Esprit vous demande qu'on y les porte, faites-le. Ça peut être efficace. Je l'ai fait moi-même, mais ce n'était pas organisé par l'Église même. Tanya et moi, on avait 17 ans. J'avais vraiment le feu de Dieu dans mon cœur. On a dit, bon, mes voisins ne connaissent pas le Seigneur. Moi, je vais juste tout simplement aller me présenter à tous mes voisins et juste leur dire que Jésus les aime. On l'a fait tout le quartier. On faisait ça. Moi, à 17 ans, je suis allé, j'ai même organisé un petit groupe de mes amis. On est allé dans plusieurs quartiers partout dans la ville. On a dit, on va aller prêcher l'Évangile. Le monde a besoin de connaître Jésus. Amen. Ce n'est pas une chose religieuse. Je ne faisais pas ça pour gagner mon ciel. Mon ciel est déjà garanti. Je ne faisais ça pas pour réserver ma place. Je faisais ça parce que l'amour de Dieu était répandu dans mon cœur et j'aimais Dieu et j'aimais les gens. Amen. Mais je dirais que la plupart des fois, la chose la plus efficace qu'on peut faire, ce n'est pas d'aller cogner les portes, mais de vivre jour par jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de vivre étant sensible à la voix de Dieu et sensible aux besoins de notre entourage. Si je me promène en étant sensible aux besoins de ceux qui m'entourent et je suis sensible à la voix de l'Esprit-Saint dans mon cœur, ça c'est une recette de la puissance de Dieu. Si je dis, Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi. Actes chapitre 1, 8, sur l'autre côté de vos notes. Nous sommes partenaires avec Dieu, surtout quand on parle de l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas une chose qu'on fait pour Dieu, c'est une chose qu'on fait avec lui. Amen. C'est lui qui est la vigne, nous sommes les branches. C'est lui qui est la source de vie, c'est lui qui est la source de puissance. Il n'y a rien dans mes mains qui peut guérir. Même pas une mouche. Mais si je sais que mes mains sont ointes par l'Esprit Saint et que Jésus habite en moi, et quand je parle, ma bouche devient la bouche de Dieu. Amen. Il supplie à travers moi, par moi. Il utilise moi. Et il peut faire la même, et il veut faire la même chose avec tout le monde qui est dans sa famille. Acte 1, 8 dit, mais vous recevrez une puissance, mon des puissances. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez bien, Jésus a dit, attendez je dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je vais envoyer, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Ici, c'est marqué, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Si vous êtes chrétien, le Saint-Esprit est déjà en vous. Mais il veut venir sur vous avec puissance. Amen. Si vous êtes né de nouveau, vous avez déjà une source d'eau vive dans votre cœur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que cette source devienne une fleuve d'eau vive. Un courant d'eau vive qui va donner puissance à votre entourage. Vous recevrez une puissance. Le mot en grec, c'est dynamis. D'où vient le mot dynamite? Amen. Dieu a oint Jésus avec le Saint-Esprit et de force. De puissance et de force. De dynamis et de force. Il a oint Jésus avec cette dynamite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Il faisait exploser les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a été envoyé pour détruire les œuvres du diable. Et savez-vous que c'est l'onction de Dieu, c'est la présence de Jésus qui fait exploser. Je dis ça quand mes enfants étaient jeunes, on faisait les dévotions dans la maison et on parlait de ça. Et au moment donné, ils savaient que si on pose la question, qu'est-ce que l'onction peut faire? Mes enfants disaient, ça fait exploser les œuvres de Satan. Quelqu'un qui est malade, ça prend du dynamite spirituel. Amen. On va faire exploser la maladie. On va exploser les liens de dépression, quoi que ce soit. Amen. C'est l'onction de Dieu qui le fait. Mais vous recevrez une puissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous recevrez une puissance. Est-ce que ça veut dire que vous allez tout simplement avoir les frissons et « Wow, je ressens une puissance. » Ou est-ce que le Saint-Esprit va faire des choses pratiques qui vont vous aider à amener les personnes à Jésus? Je crois qu'il va faire des choses pratiques. Ce n'est pas une question de frisson ou de dire « Ouh! » d'être bizarroïde ou étrange. Je vais vous avouer que des fois, quand la présence de Dieu vient sur nous, on a des frissons. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver qu'on ne ressent rien. Aucune émotion. C'est comme sec émotionnellement, mais la puissance de Dieu est là quand même. J'étais au Mexique une fois, et je prêchais, on était dans une place pauvre, 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 les enfants nus, et c'était vraiment horrible. Les personnes qui vivaient dans des conditions horribles. Mais il y avait une maison avec l'électricité où on pouvait brancher notre système de son. Et on a dit, bon, il y a l'électricité. Qu'est-ce que c'était? C'était un fil, une extension qui était amenée dans la maison avec une ampoule. On s'est branché dans ça, puis on a appelé les gens qui voulaient venir dans le village. C'était un petit village. C'était vraiment petit. Je pense qu'il y avait juste 700 personnes qui habitaient dans le village. Mais il y avait 100 personnes qui sont venues pour écouter le message. Et puis, on prêchait. Mais quand j'ai pris le micro dans ma main, laisse-moi te dire qu'est-ce qui se passait. J'ai prié, j'ai demandé à ceux, mais on prêchait la première soirée et on a dit, demain soir, s'il y a des personnes qui sont malades, je veux que vous ameniez les malades parce qu'on va prier pour les malades. Et le Seigneur va les guérir. J'ai lancé comme un défi. Amenez les malades, on va prier pour les malades. Donc, ils sont venus le lendemain, il y avait toutes sortes de malades, des choses, des personnes avec des tumeurs, des bosses et toutes sortes d'affaires vraiment dégueulasses devant moi. Et là, je dis, bon, merci Seigneur, c'était le soir, je voyais les étoiles, merci Seigneur que tu es fidèle, tu vas garder ta parole, on va prier pour ces malades, ils vont être guéris. Mais là, j'avais le micro dans ma main, je prêchais, je disais cela, il y avait une personne qui est venue devant moi et j'ai imposé les mains sur lui, et dès que j'ai imposé les mains, j'ai ressenti un courant. Je dis, wow, l'onction est forte. Puis, j'ai fait encore une autre personne, ouh, l'onction est forte. Je me suis rendu compte, après, il y avait un genre de force circuit et mon alliance touchait le métal du micro et dès que je touchais l'autre personne, l'électricité commençait à couler. Selon ma connaissance, j'ai pas vu la personne, il y avait une personne que j'ai prié pour qui avait une grosse bosse, tout de suite, c'est pas disparu, je me suis dit, oh bon, mais j'ai ressenti quelque chose, mais ça faisait pas l'affaire. Après, je me suis rendu compte, hey, c'est pas drôle, et c'était un peu désagréable. Donc, je faisais attention avec mon alliance. Je continue à prier, mais laissez-moi vous dire, je ressentais rien. Sauf que, il y avait comme des personnes. Je m'en souviens, il y avait une femme qui est revenue 10 minutes plus tard et disait, « Hey, j'avais une grosse bosse, comme un tumeur. » Et c'est disparu instantanément. Vois-tu, je ne ressentais rien. Juste par obéissance. On a dit, « Seigneur, au nom de Jésus, on impose les mains. » J'ai ressenti quelque chose hein, au début, mais ça ne faisait rien. Puis, j'ai prié encore, je ne ressentais rien et ça faisait l'affaire. Amen. Donc, je dis cela parce que le Saint-Esprit va survenir sur nous et nous allons avoir cette puissance, mais ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, c'est une véritable puissance. Qu'est-ce que Dieu va faire? Juste rapidement, je vais vous donner 6 choses que le Saint-Esprit va faire pour vous. Je vais prendre les expliquer. Vous pouvez les méditer vous-même à la maison. Mais premièrement, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans votre cœur. Voulez-vous être un témoin puissant dans ce monde? Plus vous êtes rempli de l'Esprit Saint, plus vous serez rempli de son amour. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'amour bannit la crainte. S'il y a une chose qui va nous empêcher de parler aux autres, c'est quoi? C'est la peur, la crainte. J'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment est-ce qu'ils vont réagir. Mais quand notre cœur est rempli d'amour, on ne pense plus à nous-mêmes, on pense à l'autre. La peur, la crainte est toujours égoïste. Moi, je, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? N'est-ce pas vrai? Mais l'amour dit, Seigneur, où est-ce qu'ils vont passer l'éternité? Comment est-ce qu'ils vont en sortir? Amen. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Numéro 2, le Saint-Esprit me conduit vers ceux qui sont prêts. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si on est rempli de l'Esprit, on peut se laisser guider par le témoignage intérieur de l'Esprit. Et des fois, on va voir une personne et quelque chose dans notre cœur dit, cette personne a besoin de connaître Jésus. Ce n'est pas une voix audible, c'est juste, il y a comme une poussée dans notre cœur. On est poussé vers la personne. Qu'est-ce qu'on va faire? Les taper sur la tête avec une Bible? Non. Des fois, on va juste devenir un ami avec. On va juste être gentil. On va partager l'amour de Dieu. Ce n'est pas une question de religion. Notre but, ce n'est pas de faire changer de religion de tout le monde. Notre but, c'est que les gens viennent en contact avec la vie de Dieu et la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question. S'ils viennent à la vie comblée ou cette église, ça, c'est secondaire. Qu'est-ce qui est primordial, c'est qu'ils viennent à Jésus. Amen. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas comme les sectes qui vont dire, bon, il faut que tu sois dans notre église. Il faut que tu sois baptisé dans notre religion. Ou non, tu ne peux pas aller au ciel. Non, on prêche Jésus. Et on ne prêche pas juste Jésus, on démontre Jésus. Amen. Mais on se laisse conduire par l'Esprit. Je pourrais vous donner des histoires après histoires là-dessus. Mais numéro 3, le Saint-Esprit me rappelle sa parole. Savez-vous que si le monde va être sauvé, ça prend la foi. Vous êtes d'accord? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc moi, je peux donner mon opinion de journée longue. Ça ne changerait pas encore. Mais si je donne la parole de Dieu, les Écritures inspirées de Dieu, si je partage la parole de Dieu avec une personne, le Saint-Esprit va travailler avec sa parole et va convaincre la personne. Et donc, quoi dont vous avez besoin en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur, vous avez besoin de connaître la parole pour pouvoir avoir la bonne réponse à chaque personne au bon moment propice. Donc, laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas vous rappeler de quelque chose que vous n'avez jamais connu. Étudiez la parole, méditez la parole, mettez la parole dans votre cœur, et quand le moment propice arrive, le Saint-Esprit qui est en vous va vous rappeler la bonne parole. Amen. Pourquoi est-ce que je partage ces choses? Parce que quand on quitte ici aujourd'hui même, vous devriez compter sur l'Esprit Saint de faire son œuvre. Vous devrez dire, Seigneur, merci, j'ai reçu l'Esprit Saint, je suis rempli de l'Esprit, et Seigneur, je sais que tu es fidèle et que tu vas faire, l'amour est dans mon cœur, tu vas me conduire, tu vas me rappeler la parole. Amen. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Numéro 4, le Saint-Esprit convainc le pécheur de son péché. Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Savez-vous, le Saint-Esprit, le monsieur que j'avais devant moi à l'université, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu son cœur. Ce n'était pas juste les paroles persuasives. Et si vous pensez que vous... J'ai juste une nouvelle à vous annoncer. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Comment on dit, je ne suis pas Dieu. Comment dire? Il y a un seul Dieu et c'est pas moi. Donc, votre job, c'est de prêcher la bonne nouvelle. La job du Saint-Esprit, c'est de convaincre le pécheur. Avez-vous entendu? Notre job, c'est de prêcher la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. C'est pas dire, ah, oh, mais vous êtes un méchant pécheur, vous allez brûler à l'enfer, et babababa. On prêche la bonne nouvelle. Vous savez que vous êtes réconcilié avec Dieu. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit convainc le pécheur. Numéro 5, le Saint-Esprit confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes. On dit par les paroles et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et dans les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Savez-vous que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre les pécheurs? Le Seigneur m'a montré ça une fois, il y a 17, 18 ans. J'étais encore à l'école biblique et je quittais le stationnement de l'école biblique et je voyais un homme qui était assis sous un arbre. Quelque chose dans mon cœur disait, va le voir. Je ne voulais pas, j'avais peur. Je continuais jusqu'à presque chez moi. Puis le Saint-Esprit a dit, non, je t'ai dit d'aller le voir. Je dis, OK, je tourne de bord. Je dis, OK, Seigneur, j'y vais, mais laisse-moi te dire, Seigneur. J'ai parlé avec le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas y aller tout seul. Tu vas avec moi. Je compte sur toi, Seigneur. Si c'est nécessaire, tu vas te manifester par des dons de l'Esprit, que ce soit une parole de connaissance, une parole de sagesse pour que je puisse aider cette personne parce que je ne sais quoi lui dire. Donc, j'arrive devant lui. J'avais prié de même. Et c'est un gars qui travaillait avec une cirque qui était en ville. Donc, c'était un gars qui était comme un peu rough, on dirait. Et il était là. Il se lève debout. Et je commence à parler avec lui du Seigneur. Et tout d'un coup, je vois que le Saint-Esprit est en train de convaincre son cœur. Et je parlais avec lui, je lui présentais le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Et je lui dis, est-ce que tu aimerais le recevoir? Il a dit oui. Donc, je dis, bon, on va prier. Et lui, je ne vais pas lui demander de faire ça. Lui, tout d'un coup, il est à genoux. On est là, à l'extérieur, il est à genoux, il commence à prier. Il a accepté le Seigneur. Puis j'ai dit, tu sais quoi? Tu as besoin d'une autre chose. Il y a un autre don qui t'appartient, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler en langue. Ah oui, j'aimerais avoir ça aussi. Donc là, j'ai imposé les mains sur lui. Et après avoir montré quelques versets, il a dit, tout d'un coup, dès que je l'ai touché, il a presque tombé en patin. Il a dit, j'ai comme ressenti comme un vent qui est passé par moi. C'est pas d'habitude que ça arrive de même. Et puis, il a dit, hey! Parce qu'au début, avant que j'ai prié pour lui, il marchait croche comme ça. Il dit, hey, ça fait 10 ans que je ne peux pas me redresser. Tout d'un coup, le Saint-Esprit l'a guéri instantanément. Je ne cherchais pas ça. Mais tout ce que je cherchais, c'était d'être obéissant à la conduite de l'Esprit. Amen. Laissez-moi vous dire, si on est obéissant, si on se soumet à lui, il va se manifester. Et il va convaincre les pécheurs. Amen. Et ensuite, la dernière chose qu'il fait numéro 6, il nous aide à prier avec efficacité. Quand nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même nous aide avec des soupirs inexprimables. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on a l'Esprit Saint en nous et on est rempli de l'Esprit, et l'Esprit est sur nous, il nous aide à prier en notre langue pour des personnes, des choses qu'on ne sait pas. Moi, je peux prier avec ma tête, des choses que je sais, mais il y a d'autres choses que je ne sais pas. Et le Saint-Esprit peut m'aider à prier la volonté parfaite de Dieu pour ces personnes. Et on va voir une plus grande récolte comme ça. C'est des choses pratiques que je viens de vous montrer. Tania, si tu aimerais venir. 11h57. Donc, ceux qui ont besoin, on va chanter dans une minute, ceux qui ont besoin de partir, je vais vous libérer. Mais si vous n'êtes pas obligé de partir, ça se peut qu'on a encore 5 minutes de plus. Même pas. Je vais juste donner une invitation ce matin. Si tu aimerais. On va se lever debout, doucement, tranquillement, avec révérence. C'est peut-être le moment le plus important de la réunion. Donc, à moins que vous êtes vraiment obligé de partir, je vous demande de ne pas partir. Par amour de Dieu et par amour pour les gens qui ont besoin de recevoir les choses ce matin. Alléluia. Avec tous les yeux fermés. Ce matin, on a partagé un message qui est plutôt pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus. C'est ça que j'avais à cœur de faire ce matin. Mais on a parlé de l'importance de partager notre foi, de partager cette vie nouvelle avec notre entourage. Mais ça se peut que vous êtes ici, vous dites, « Pasteur, moi, je ne sais pas, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour moi, je crois qu'il est ressuscité des morts, mais je n'ai pas encore la conviction que j'ai reçu la vie éternelle. Je ne veux pas quitter ce lieu sans être sûr et certain, sans avoir l'assurance que j'ai reçu ce don gratuit de la vie éternelle. » Si c'est vous, et vous aimeriez que je prie avec vous ce matin, je ne vais pas vous embarrasser, mais je veux quand même que vous preniez une décision ce matin, avec tous les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait, « Pasteur, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux confesser avec ma bouche qu'il est mon Seigneur, mon Maître. Et je veux devenir son enfant. » Si c'est vous et vous voulez accepter le Seigneur Jésus dans votre cœur ce matin, juste levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jésus a dit, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. » Donc, c'est pourquoi il est important pour nous aujourd'hui d'accepter ce don gratuit. Qu'est-ce que vous feriez si Jésus lui-même était ici dans la chair, ce matin? Et si Jésus te poserait la question, « Mon ami, je suis mort pour toi, je suis ressuscité pour toi, je t'aime. Veux-tu m'accepter aujourd'hui? » Quand je te demande aujourd'hui, Pasteur Ken Taylor, c'est sa voix qui parle, mais c'est le cœur de Dieu aussi qui parle. Ce n'est pas juste moi, c'est Dieu qui supplie à travers moi, soyez réconcilié avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ce matin dirait, « Oui, Jésus, je veux t'accepter, je veux venir à toi, je veux donner ma vie à toi, je ne veux pas te rejeter. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, « Oui, c'est moi, je veux donner ma vie à Jésus. » Il y a une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia! On va prier cette prière avec la personne qui a levé la main. Si vous n'avez pas levé la main, mais vous aurez dû, je vous invite de prier cette prière. On va prier tous ensemble. Père Céleste, je confesse aujourd'hui, avec ma bouche, que Jésus est mon Seigneur et il est mon Maître. Je crois de tout mon cœur qu'il est ressuscité des morts. Je donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et je vais te servir au nom de Jésus. Deuxième invitation. Ce matin, si vous êtes ici, vous dites, « Oui, je suis sauvé. »